Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Décidément, je suis très journée mondiale en ce moment et vous allez l'entendre à nouveau dans quelques minutes. Non, parce que là, dans ce petit édito qui permet chaque jour aux auditeurs et à moi-même de se mettre en jambe avant une heure de sous-marin, j'aurais pu causer du crash d'hier, de la situation au Yémen, de ce scandale selon lequel les signes astrologiques que nous pensons être les nôtres sont en réalité faux, du deuxième tour des départementales. Mais non, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la procrastination, donc je vais remettre à demain tous ces sujets fort intéressants et je vais profiter du temps qu'il me reste pour ne rien faire. Voilà, comme ça, là je procrastine.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Thierry Bidet, le programmateur du festival Les Éclectiques en vue de la collection Printemps qui débarque début avril. Ce sera juste après la chronique de Quentin, mais d'abord, dans 8 jours, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À Angers, une équipe de jeunes volontaires a fait la connaissance de ces troubles du comportement cette année à travers une mission qu'ils mènent chaque semaine auprès d'enfants autistes. On en parle tout de suite.
Comment je suis là ?
Quentin.
Quentin.
Comment je suis là ?
Peur.
Peur ! Gagné ! On a deux mots clés dans le travail, c'est bifun.
Extrait du documentaire Quelque chose en plus de Sophie Robert qui met en avant la méthode comportementaliste dont on parlera tout à l'heure. Mais d'abord, je salue Omar, Anoa, Jérémy et Pauline. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes 4 volontaires de l'association Unicité, vous avez entre 19 et 23 ans et vous travaillez en lien avec l'association Autisme 49. Alors l'association Unicité, elle met en lien des jeunes volontaires avec des associations de solidarité. Pourquoi avoir choisi de travailler avec Autisme 49 ?
Alors, Omar, je vais commencer. Donc moi j'ai choisi cette mission car c'était par rapport à mes projets professionnels, parce que je voulais me réorienter vers l'éducation spécialisée. Et donc c'était pour moi du coup un moyen de baigner dans le milieu social, d'avoir des premières expériences, et c'était un public que je connaissais pas. Donc j'ai trouvé ça intéressant de choisir cette mission et pour découvrir et me faire ma propre expérience.
Pour les autres peut-être un petit mot, Anoa.
Ouais, carrément. Bah, moi j'en savais pas beaucoup sur l'autisme aussi, c'est un peu pareil qu'Omar, et j'avais bossé avec des handicapés mentaux et physiques dans un foyer. Et j'avais envie de découvrir un peu quelque chose de différent, un public différent pour m'orienter aussi vers l'éducation spécialisée après.
Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est l'autisme. Alors c'est dur de le résumer en quelques mots. D'ailleurs je précise aux auditeurs que cette émission n'a pas du tout la prétention de résumer en 20 minutes toute la complexité de l'autisme, mais simplement de mettre en lumière cette initiative. Pauline, peut-être quelques mots sur l'autisme.
Oui, quelques mots. Donc, l'autisme est un trouble neurologique développemental. Il y a 3 signes caractéristiques avec des difficultés dans les relations sociales, des difficultés de communication, une capacité d'imagination limitée et avec des intérêts restreints pour quelque chose en bien particulier, comme par exemple, il y en a certains qu'on accompagne, ils sont à fond dans les dinosaures.
Très à fond, oui.
Donc il y a des marottes, quoi. Il y a des enfants qui ont leur spécialité en quelque sorte, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Et alors on dit qu'il existe plein de formes d'autisme. Il y a certaines personnes qui disent qu'il existe un autisme quasiment par personne. Est-ce que c'est le cas ?
C'est le cas, en fait. C'est vraiment, l'autisme est vraiment bien spécifique à chaque jeune. Il n'y a pas de généralité, c'est vraiment particulier à chaque personne. Et oui, après, je ne sais pas, peut...
Bah, rien dans nos accompagnements à nous, les jeunes qu'on suit n'ont vraiment rien à voir entre eux. Il y en a qui ont la parole, d'autres qui ne l'ont pas. D'autres qui vont être plus autonomes que certains, donc c'est vraiment... Là, on se rend vraiment compte, ouais, de la complexité, de la diversité, du coup, de cet handicap.
Alors, parlons de votre mission, ça s'appelle Famille en Harmonie. Vous accompagnez 2 ou 3 enfants autistes une fois par semaine, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et ce sont des enfants dont les parents font partie de l'association Autisme 49 ?
Oui, en fait, Autisme 49, c'est une association de parents voilà, qui se regroupent pour se soutenir et puis organiser des sorties et donc ces accompagnements-là aussi en lien avec nous.
À quel type de comportement est-ce que vous avez à faire ? Alors, on va parler de concret, puisque là, on a une définition par Pauline, mais j'imagine que quand vous avez commencé votre mission, il y a des choses qui vous ont peut-être surprises, auxquelles vous n'attendiez pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre quotidien, en fait, dans cette mission ?
Donc, oui, vous voulez savoir comment ça s'est passé avec les jeunes, les premiers...
Voilà, oui.
Bah...
Et comment ça se traduit en fait dans le comportement ? Alors vous disiez, il y en a qui ont la parole, d'autres qui ne l'ont pas, par exemple. Voilà. Comment ça se traduit l'autisme dans votre quotidien ?
Alors moi j'appréhendais beaucoup parce que comme je le disais, c'était un public que je ne connaissais pas. Donc j'en avais un qui ne parlait pas du tout, qui n'avait pas la parole. Et c'était très compliqué du coup pour le comprendre au début parce qu'on n'est pas habitué à communiquer sans la parole. Et au final, avec la relation qui s'installe, on arrive ensuite à comprendre un peu ce qu'il ressent. Après, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé, parce qu'il avait aussi des problèmes de violence. Donc on a dû arrêter l'accompagnement. Mais sinon, avec les deux autres, ça se passe de mieux en mieux avec une bonne relation qui s'instaure à force d'échange et de communication.
D'autres exemples comme ça autour de la table ?
Ouais. Donc nous, avec Jérémy, on intervient tous les deux en binôme avec les mêmes jeunes. On en a un, notamment, on sait que quand ça va pas, il va commencer par fermer les yeux. On sait que c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est à nous d'essayer de trouver autour, dans l'environnement, ce qui peut le gêner. Là, par exemple, la semaine dernière, on a pris le bus et en fait, il y avait un bébé qui pleurait et qui criait. C'était assez fort. Même pour nous, c'était pénible. Et on lui a posé la question quand on a vu qu'il fermait les yeux et c'était ça qui le gênait. Du coup, après, on a suggéré la situation et ça s'est bien passé.
Les défis auxquels vous avez affaire, en fait, c'est quoi ? C'est la sociabilisation de ces enfants ? C'est la confrontation au monde extérieur ? C'est quoi, en fait, votre objectif quand vous travaillez avec ces enfants ?
L'objectif principal, c'est de travailler sur une autonomie du jeune. Après, on a affaire à pas mal de comportements différents et faut vraiment être habitué être préparé à divers imprévus. C'est très varié quoi.
D'ailleurs, ils ont quel âge ?
Le plus jeune a 4 ans.
Et du coup, la plus âgée a 21 ans. Ouais, 21 ans, c'est ça.
Et c'est aussi, j'imagine, il y a un autre objectif, c'est peut-être aussi de, entre gros guillemets, soulager les parents quelques heures, c'est ça, dans la semaine, aider les parents à...
Ah oui, c'est clairement un des objectifs, oui. Parce qu'on sent, je pense que c'est le cas pour tous les parents d'enfants autistes, on sent les parents quand même fatigués, parce que ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps, et on sent que notre présence et notre accompagnement, ça les permet un peu de souffler. Et du coup, sur ce temps-là, ils peuvent faire autre chose pendant que nous, on est avec leurs enfants.
Alors, quelles actions vous menez au quotidien avec eux ? Qu'est-ce que vous faites ? Il y a des activités précises ?
Par exemple, avec mon binôme, on a un jeune qui a 15 ans. C'est assez particulier parce que lui, il est Asperger, du coup. Donc,
peut-être préciser ce que c'est.
Asperger, c'est des intérêts restreints. En fait, il est très orienté dinosaure, lui, par exemple. Donc, c'est une encyclopédie à lui tout seul, quoi. Il est impressionnant par rapport à ça, mais ce qui est compliqué, c'est qu'une fois qu'il est lancé sur ce sujet, en fait, il s'arrête pas. Et c'est ce qui le rassure, en fait. Il a aussi, vu que c'est les dinosaures, il a projeté ça aussi sur les reptiles. Donc, il a un reptile chez lui, qu'il considère vraiment comme son meilleur ami. Donc, c'est très, très présent dans ses conversations, dans ses émotions. Il a besoin, quand il a besoin d'être rassuré, il en a besoin, de son animal, ou de parler de ça. Et du coup, avec lui, on essaie de l'amener vers... une autonomie, mais aussi s'habituer à sortir, à faire d'autres choses, en fait, que ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, si on le laissait faire comme il veut, entre guillemets, ben, il parlerait que de dinosaures, il serait toute la journée chez lui en train de regarder, d'examiner son animal. Et du coup, nous, on essaye de le faire sortir, on va en ville avec lui, juste histoire de boire un café, par exemple. Et ça se passe hyper bien.
Et d'autres activités, comme ça, d'autres exemples d'activités que vous faites ?
Oui, avec Pauline, on accompagne un jeune qui a 20 ans le mardi après-midi. Et ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, c'est surtout des recettes de cuisine, des gâteaux, des crêpes, Ça peut être faire une balade ou aller acheter du pain. Non,
c'est vraiment de travailler l'autonomie au quotidien, donc que ce soit par la cuisine ou être capable d'aller chercher une baguette, par exemple, de pain seul, tendre la monnaie, récupérer la monnaie, pour vraiment se débrouiller par lui-même.
En 2012, le Conseil économique, social et environnemental avait noté dans un rapport que nombre de personnes autistes restent en famille faute de réponses adaptées à leurs besoins. Est-ce que c'est le cas des personnes que vous accompagnez? Quelles sont les solutions qui leur sont proposées? Est-ce qu'en parallèle, ils sont dans des instituts spécialisés? Comment ça se passe concrètement leur quotidien quand vous n'êtes pas là?
En fait, il y a un peu des deux. Il y a des jeunes qui sont scolarisés en milieu ordinaire, d'autres qui sont en milieu spécialisé. Et en dehors de ça, ils voient des spécialistes, orthophonistes, psychologues, etc. Ouais,
éducateurs aussi.
Éducateurs.
Psychométriciennes aussi.
Et après, nous, on intervient sur le temps d'une heure dans la journée, mais c'est des jeunes qui sont chez eux. Et le samedi, on fait des accompagnements à la piscine avec l'association Autisme 49. Et là, il y a des jeunes qui viennent, qui sont en institut la semaine. Et qui rentrent que le week-end chez leurs parents.
Depuis le début de votre mission, donc octobre, à l'automne, est-ce que vous avez vu une évolution avec les jeunes que vous accompagnez et lesquels?
Bah, moi, sur les deux enfants, on a vraiment... Moi, avec ma binôme, on a vraiment senti l'évolution. On a la jeune fille de 21 ans, du coup, celle qui est plus âgée. On sent vraiment qu'avec la relation qui évolue, on sent vraiment une prise de... Enfin, voilà, on est vraiment en confiance maintenant, elle nous parle beaucoup plus, alors qu'au début, elle était assez refermée sur elle-même. Et du coup, maintenant, on échange vraiment beaucoup, elle nous dit ce qu'elle veut faire. Elle rigole, elle est beaucoup plus ouverte qu'avant et beaucoup plus épanouie. Et, bah, du coup, ça fait plaisir pour nous aussi, on sent vraiment l'évolution avec cette personne.
Anoa ?
Bah, c'est pareil avec le jeune de 15 ans. La relation de confiance est vraiment instaurée maintenant et... Et ça fait plaisir, quoi. Ils nous appellent même quand on n'est pas en accompagnement pour nous confier des petits trucs. Et c'est hyper touchant, en fait. Parce qu'on sent que quand ça fait longtemps qu'il ne nous a pas vus, par exemple, ben on lui manque, qu'il a envie de découvrir d'autres choses avec nous, qu'on lui fasse découvrir d'autres choses, en fait. Et il est vachement en demande, alors qu'avant, il était très en retrait, comme si... Il subissait, entre guillemets, ce qu'on voulait lui faire faire, quoi.
Et en ce qui concerne l'apprentissage de l'autonomie, ça a avancé sensiblement?
Ouais, ça a avancé. Le jeune qu'on accompagne le mardi après-midi, en fait, il fait la recette tout seul, maintenant. On est juste là pour lui dire, prends la farine, prends le sucre, mais après, c'est lui qui se débrouille pour faire le reste.
On va poursuivre cette discussion juste après The Blue Beaters avec Catch That Teardrop, c'est dur l'anglais.
Hit the
Radio Campus Angers.
Et ce soir, on est avec Omar, Anoa, Jérémy et Pauline, quatre volontaires de l'association Unicité, qui travaille en lien avec l'association Autisme 49. Alors, en préparant l'émission, j'ai lu que l'autisme était reconnu comme handicap seulement depuis 95, ça fait seulement 20 ans. Vous me dites si je dis une bêtise, en France en tout cas.
Non, c'est ça.
C'est donc super récent. Est-ce que vous le ressentez dans la prise en charge? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Est-ce que la France est carrément à la bourre par rapport à d'autres pays? Et lesquels?
Bah déjà, je trouve pas le mot, mais le diagnostic voilà,
ouais.
est assez compliqué. Par exemple, à la piscine, on a rencontré une personne qui est âgée de une quarantaine d'années. Et ça faisait seulement 3 ans qu'il a été diagnostiqué autiste, en fait. Et cette personne-là, ça s'est toujours rendu compte qu'il avait des problèmes de sociabilisation, et maintenant, il a eu une réponse pourquoi il avait ces problèmes-là. Quoi. Après, pour en complément, peut-être que mes collègues vont pouvoir...
Sur le retard de la France par rapport à d'autres pays, par exemple?
La France, ouais, est en retard par rapport aux États-Unis, Québec, Canada. C'est un retard de 10 ans, il me semble, à peu près.
Et ça se ressent dans quoi, en fait, le retard? C'est dans les instituts qui sont capables de prendre en charge...
Les prises en charge, en fait. Les professionnels n'ont pas forcément les solutions ou la formation pour. Il n'y a pas beaucoup de professionnels, en fait, formés réellement sur que la question de l'autisme.
Il existe beaucoup de confrontations entre des spécialistes quant aux méthodes à employer face à l'autisme. Est-ce que vous, qui n'êtes pas encore professionnel de cette question-là, vous avez réussi à vous en sortir, à voir plus clair dans les méthodes à adopter, ou est-ce que c'est compliqué encore?
Plutôt sur la question de la méthode ABA.
La méthode ABA. Alors, allons-y sur la méthode ABA. Vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est une méthode, je crois qu'on appelle comportementaliste, c'est ça?
C'est une méthode qui favorise l'apprentissage de comportements élémentaires par le biais de renforcement positif.
Alors, concrètement, ça veut dire quoi?
Ouais, nous, en fait, avec Jérémy, on accompagne un jeune qui fonctionne avec cette méthode. C'est que sur un temps d'activité, on va faire un temps d'activité de 30 minutes. Par exemple, on va faire une BD pendant 30 minutes. Et à la fin de ces 30 minutes, il aura 15 minutes où il pourra souffler. Et pendant ces 15 minutes, il va utiliser, lui, sa caméra pour filmer. C'est son moyen de décompression.
En fait, c'est une récompense.
Ouais, c'est l'apprentissage par la récompense, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui est assez controversé. Peut-être la comparaison avec l'animal, je sais pas. Le fait de donner une récompense quand on fait une chose bien. Je pense que c'est ce qui est controversé, ce qui ne plaît pas à tout le monde.
Et justement, la question, c'est quand ça ne se passe pas bien, quand le jeune ne fait pas ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de récompense? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une punition ou...
La fessée.
Non, normalement, il n'y a pas... Enfin, nous, ça ne nous est jamais arrivé, en fait. Il a toujours fait jusqu'au bout, et toujours, ça s'est toujours bien passé. Donc après, je ne sais pas réellement...
Je pense qu'il faut adapter, en fait. Qu'à chaque fois, s'il n'arrive pas à faire 30 minutes d'exercice, ce sera 15. Et il leur faut énormément de précision, en fait. Il faut que ce soit hyper cadré.
Cette méthode ABA, elle vient d'où?
Là, j'ai peur de dire des bêtises, mais... Je pense que c'est des États-Unis. Après, je ne suis vraiment pas sûr, mais...
Et en France, alors, vous la pratiquez un petit peu? Est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce qu'il y a des établissements qui l'utilisent officiellement?
Ouais. Très peu. Il y a je sais qu'en région parisienne, il y a deux instituts qui le font parce que c'est le film de Sophie Robert qui porte dessus. Et après, je ne sais pas exactement.
Le film de Sophie Robert qui s'appelle Quelque chose en plus, dont on a entendu un super court extrait au début de l'interview, qui met justement en avant cette méthode ABA. C'est vous qui avez choisi ce film-là?
C'est l'association Autisme 49 qui a choisi le film, et nous on l'avait vu déjà en amont, en fait, de cette journée-là, au début de notre formation, en fait.
On va parler de la journée du jeudi 2 avril, donc c'est dans 8 jours. Ça sera la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Les gens ont encore besoin d'être sensibilisés à cette question, j'imagine, si cette journée existe. Ça se concrétise comment? Juste une petite parenthèse, quelles sont les réactions des gens face aux jeunes que vous accompagnez, des gens qui ne sont pas habitués à l'autisme?
La crainte, je pense. Enfin, c'est des personnes qui se comportent pas comme nous, qu'on comprend pas forcément. Donc je pense que quand on connaît pas quelque chose, on en a un petit peu peur. On a peur de la différence de façon générale. Donc quand on voit un enfant qui pousse des cris dans un bus et qu'on sait pas pourquoi, forcément on va avoir un peu... on va se poser des questions, on va s'éloigner de lui. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire découvrir aux gens ce qu'est l'autisme pour essayer du coup de mieux comprendre cette différence.
Alors, et donc justement, ça se fera par un stand notamment de 10h à 18h, c'est ça, rue Le Neveu. Un stand où on pourra venir s'informer, comment ça va se passer exactement
Bah en fait, c'est ça, c'est une journée qui se passe le 2 avril, donc rue Le Neveu, devant le musée Pincé. Et donc oui, il y a un stand de 10h à 18h où nous, on sera là. Il y aura aussi des bénévoles de l'association Autisme 49, des psychologues qui seront sur place, avec deux autres associations, je crois, Pas à Pas et... je ne sais plus laquelle. Ensuite, on a choisi de mettre un temps fort aussi à 17h30 avec une prise de parole et un mini-concert.
Un mini-concert avec qui ?
Justement, c'est...
Alors, c'est le fils de la directrice de Autisme 49 avec son petit frère qui est lui-même atteint de troubles autistiques. Donc, qui vont faire une musique écrite par Sophie Robert aussi, d'ailleurs.
La réalisatrice, oui.
Voilà, donc ils vont jouer cette musique-là au moment du temps fort. Et donc après, il y aura une prise de parole de monsieur le maire. Et après, il y aura un... après ou avant, non ? Stéphane. Et après, il y aura un lâcher de ballon.
Un lâcher de ballon à 18h30, voilà.
Place du ralliement ? Ou rue Le Neveu ?
Non, rue Le Neveu. Tous... Non, attends, je dis des bêtises, excusez-moi.
Enfin, à côté, en fait. C'est sur le ralliement, normalement.
Et à 20h15, donc, au 400 coups, la projection de ce documentaire dont on vient de parler, Quelque chose en plus, de Sophie Robert, suivi d'une rencontre avec Isabelle de Pontevès, la présidente de l'asso Autisme 49. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ?
De pouvoir sensibiliser un maximum de personnes à la question de l'autisme.
Et puis de voir plein de gens qui s'y intéressent, ce serait sympa.
On va parler peut-être de vous plus précisément de l'année prochaine, puisque la mission elle se termine en juin. Omar, vous nous avez dit en début d'émission que vous, déjà, vous destiniez même avant à l'éducation spécialisée, c'est ça ?
Mmh, c'est ça.
Donc dès l'année prochaine, vous allez vous y mettre. Comment ça se passe ?
Oui, donc là, je suis actuellement en train de passer mes concours. Donc j'en ai eu un. Donc oui, l'année prochaine, en septembre, je rentre en formation à Angers. À l'école du coup de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé, mon choix n'est pas encore fait, mais je me lance dans l'éducation spécialisée dans tous les cas à Angers.
Et pour les autres, alors, est-ce que ça vous a conforté ?
Oui, moi c'est pareil,
Noir,
j'ai passé les mêmes concours qu'Omar quasiment, et du coup j'attends, j'ai mon oral à passer bientôt et j'espère que ça va marcher parce que c'est vraiment ce que je veux, ouais, j'en suis certaine.
Jérémy ?
Alors moi pas du tout, en fait moi je suis, moi, c'est le social c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais moi je voudrais me lancer dans des études dans le cinéma, voilà, donc c'est un projet d'orientation que j'ai eu l'année dernière en étant dans une année justement fait pour construire son projet d'orientation.
Autre chose donc, Pauline ?
Et du coup moi j'ai déjà un diplôme dans le social, j'ai un diplôme de conseillère en économie sociale familiale, que j'ai eu au mois d'octobre, et j'ai décidé de faire une pause en faisant mon service civique. Et donc l'année prochaine, je me lance dans la vie professionnelle.
Bon courage donc, bonne chance, et puis de toute façon, d'ici là, on se reverra jeudi 2 avril pour la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Merci beaucoup Pauline, Jérémy, Omar et Anoa d'avoir été dans le sous-marin.
Merci à vous.
Merci.
canal de kekene luma ni muri bala nu akan tupi de tuplu ti de kiki de kela
C'était Daggy de Tcheklo.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on retrouve Quentin pour sa première chronique sous-marine. Salut Quentin.
Bonjour.
Alors, de quoi tu vas nous parler ?
Alors, je vais vous parler de la peine de mort en Utah.
Allons-y.
C'est dans l'Utah, un état américain, que le lundi 23 mars, le peloton d'exécution a été rétabli pour les condamnés à mort en cas de pénurie de produits d'injection létale. Un sacré bond en arrière quand on sait que ce procédé avait été aboli en 2004, il y a maintenant plus de 10 ans. L'état le plus mormon des États-Unis, où 62% des habitants se disent mormons, oui oui, mormons.
Tu peux nous rappeler ce que c'est un mormon ?
Alors, selon le site lesmormons.e, -monsite.com, un mormon est une personne qui croit en la théologie du mormonisme, une religion qui interdit l'alcool ou toute autre substance dite addictive comme la cigarette ou la drogue. Ce sont des gens simples qui sont habillés en costume cravate pour les hommes et en jupe pour les femmes. Ils vont à la messe une fois par semaine, ont une vision de la vie très optimiste, ils sont non violents et bien entendu pas de relations sexuelles avant le mariage. Comme quoi c'est un peu des chrétiens mais encore plus pudiques et plus traditionnels. Bref, il était une fois dans l'Utah, un groupe de personnes qui, après quelques mois de réflexion et plusieurs tentatives de mélange létal ratées, se sont dit « Tiens, Brandon, et si on remettait en place le peloton d'exécution, tu sais, comme en 40 ?»« Oh oui, Brian, je suis sûr que ça va être une très bonne idée, et puis ça va résoudre notre problème de piqûre mortelle comme ça. » Et c'est ainsi que l'Utah eut plein de morts rapides et aussi plein de soldats souffrant de stress post-traumatique après avoir suivi les ordres de tuer. Bien sûr, plusieurs critiques caractérisant cette pratique de barbare sont apparues, mais certaines personnes sont là pour la défendre aussi. Oui, on est aux États-Unis quand même, faut pas déconner. Le porte-parole du gouverneur Gary Herbert a d'ailleurs déclaré « Ceux qui s'opposent à ce projet de loi s'opposent principalement à la peine de mort. » Comme quoi, on déconne pas en Utah. Quand on veut tuer à tout prix, faut un peu poser ses idées sur la table.
Alors comment ça s'explique cette pénurie, Quentin ?
Alors cette situation quelque peu rustique, si on peut dire, s'explique car certains produits sont importés d'Europe où se trouvent les compagnies pharmaceutiques qui produisent les différents composants. Mais alors voilà, l'Union européenne, ayant eu soudainement une étincelle de génie, a interdit l'exportation de ces produits en 2011. Car elle, je cite, « désapprouve l'application de la peine de mort, quelles que soient les circonstances, et œuvre à son abolition universelle. Aimez-vous les uns les autres, on vous a dit. » La Suisse envisage d'ailleurs de suivre la décision de l'Union européenne pour ne plus alimenter les bourreaux américains en produits mortels. D'ailleurs, la loi autorisant l'injection létale pour les condamnés à mort, qui est la forme la plus commune d'exécution aux États-Unis, va être revue en avril prochain par la Cour suprême des États-Unis. Espérons qu'après un bond en arrière, ils fassent un 100 mètres en avant.
Merci Quentin.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonjour Thierry Bidet.
Bonsoir.
Vous êtes programmateur du festival Les Éclectiques, un festival qui se décline en plusieurs collections, un peu comme les catalogues de vente par correspondance, automne, hiver, printemps. Avant de parler de la collection printemps qui arrive là début avril, un mot peut-être sur la dernière édition. Vous aviez été contraint d'annuler la soirée du samedi qui prévoyait Aquaserre, Giggles Gift et Grand Blanc. Pour quelle raison ?
Bah parce que les coups de cœur suffisent pas pour qu'une soirée fonctionne, qu'on a été peut-être un peu gourmand à proposer trois groupes dans une salle de 400 places plutôt que deux groupes dans une salle de 250. Donc voilà, proposer un tel concert avec que 16 Rezal lundi, ce qui amenait à 50 personnes peut-être le samedi, ça paraissait un peu juste et pour l'artiste et pour le public, enfin et pour tout le monde quoi. Ça aurait été plutôt une soirée gâchée. Donc voilà, on a reporté Eagle Gift sur le printemps. Et puis les deux autres artistes, bon, bah, on a réglé les cachets. Et puis j'espère qu'un jour, on les reprogrammera. Voilà, quoi. Mais bon, c'était une décision à prendre.
Il y a une conséquence sur les finances des Éclectiques ?
Pas plus que ça, parce que ce n'est pas une grosse collection. Ce n'est pas des gros budgets et ça n'impacte pas. Moi, j'avais déjà prévu pas mal d'argent de côté pour cette soirée-là, parce que j'avais prévu un déficit, clairement. Je savais que je ne partais pas sur une soirée gagnante, quoi qu'il arrive. Bon, de là à penser qu'on ferait que 50 personnes, voilà, c'était pas forcément l'objectif.
On passe à la collection Printemps, donc définie par ces deux mots, alternative et tendance, c'est oui. Bien ça. Comment ça se concrétise, ces deux mots, dans le choix de la programmation par rapport aux autres collections ?
Bah, y a un peu, d'une part, des artistes tendance du moment, du style de Fakir ou de Salut C'est Cool. Salut C'est Cool, c'est un peu un phénomène internet, un gros délire qui plaît bien aux jeunes. Fakir, c'est plus l'électro 3.0 qui arrive, qui dans l'année 2015 avec Rhône, avec divers artistes canais, on sent qu'il y a un renouveau en tout cas de l'électro française et Fakir en fait partie. Et puis après, alternative, bah, c'est un peu tout ce qu'on a toujours défendu depuis maintenant presque 20 ans, des artistes comme Stand Eye Patrol qui font partie de niches artistiques, qui font partie de courants comme le dub, qui ne sont pas des courants très représentés dans les salles ou dans les festivals, mais qui pourtant apportent pas mal de public, ont vraiment un vrai public qui les suit tout au long de l'année, quoi.
On va la détailler, cette programmation. On commence le vendredi 3 avril au Jardin de Verre, à Cholet, avec un BD-concert, le Tour de Valse. Alors parfois, les BD-concerts, c'est un musicien et un dessinateur qui créent en même temps. Mm-hmm. Là, j'ai cru comprendre que c'est Tony Canton et Jean-Pierre Capor aussi, des compositeurs qui vont jouer en tournant les pages d'une BD, c'est ça ?
Ouais, alors du coup, la particularité, c'est que par rapport à un ciné-concert, il y a en plus l'effet BD, donc qui est un peu animé. Donc effectivement, oui, ils ont créé la musique autour de cette histoire. Le Tour de Valse, c'est la BD, c'est le nom de la BD. Et du coup, ils ont mis en musique cette BD, quoi.
C'est un coup de cœur ?
Moi, c'est en tout cas quelque chose que je partageais avec le directeur du Jardin de Verre, qui est aussi force de proposition dans notre programmation, puisque c'est des partenariats. Donc pour une fois, je dirais que c'est plus lui qui a choisi que moi. Moi, l'idée m'a séduit parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas, banco, allons-y. On va voir. Moi, je n'ai jamais vu, donc je ne suis même pas capable trop de défendre la chose, j'avoue. Mais lui, par contre, avait l'air très convaincu. Et moi, les images m'ont bien plu, la musique m'a bien plu. Donc
on voilà. Y va, quoi.
Instinctivement, comme d'habitude, j'y vais.
On passe au samedi 4 avril. Là, ça se passe au Théâtre Foirailles à Chemillé. Et à partir de 19h, on va pouvoir voir, par exemple, Big Arantz. Big Aranx, Gabriel Piotrowski, originaire de Tours. Un petit mot sur Big Aranx.
Alors, Big Aranx, c'est l'artiste raga, reggae, je dirais qui est dans la mouvance un peu comme Navan actuellement, quoi, qui a la particularité de plutôt bien retourner les foules en général. Donc, comme chauffeur d'ambiance pour démarrer, c'était plutôt pas mal. Donc voilà pourquoi le choix de 19h, qui plaît pas à certains, mais bon, moi, en tout cas, c'est ma façon de faire.
C'est vous le chef, de toute façon.
Ouais, puis je trouve que c'est bien, ça oblige les gens à venir tôt et après à découvrir des choses.
Salut, c'est cool. Vous avez dit un petit mot tout à l'heure déjà sur Salut, c'est cool, gros phénomène internet, c'est ça ?
Ouais, bah après, faut regarder les vidéos pour comprendre.
Ringardise à assumer quand même, non ?
Ouais, complètement. Puis après, enfin, comme je dis, c'est un festival, c'est un moment d'amusement aussi. C'est pas forcément le moment culturel à tout prix. C'est aussi voilà, une bonne partie de rigolade. Et là, clairement, ce que je propose, c'est de se marrer pendant 50 minutes devant un truc qui n'a pas de sens. Voilà, et qui logiquement va provoquer le rire, provoquer la danse, enfin, ramener des gens sur scène. Enfin, on s'attend un peu à tout, on verra.
Ensuite, c'est Fakir qui prend la suite. Vous l'avez dit tout à l'heure, Fakir, c'est un peu une révélation
électro là, de l'année dernière.
Déjà, c'est séduisant sur disque. Après, j'ai vu Ascopitone en septembre. C'était très séduisant sur scène. Il y a une scéno qui est assez jolie. Puis bon, musicalement, on est vraiment dans l'électro-tendance. C'est un peu plus soft l'électro en ce moment. C'est moins tap.
C'est beaucoup plus doux.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, je trouve que c'est l'artiste effectivement qu'il fallait défendre sur cette collection printemps, en tout cas pour ce qui est de la musique électronique.
Il y a aussi Ezekiel sur cette affiche du samedi. Ezekiel, qu'on, normalement on ne présente plus Ezekiel, mais on va le présenter quand même.
Alors chez nous, effectivement, c'est la troisième fois qu'il vient, donc c'est vrai que le public connaît déjà, il y a pas mal de public qui va revenir voir forcément. C'est un groupe absolument à découvrir en live. Moi personnellement, je suis pas, j'écoute pas le disque toutes les semaines. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Par contre, le live d'Ezekiel, je le raterai pas pour rien au monde parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Il y a une projection de vidéo, il y a une projection de lumière, il y a toute une scénographie qui est très très jolie. Tous les gens qu'on vu sont unanimes. C'est vraiment l'un des shows de l'année en termes d'éclairage et de vidéo. Donc c'est un peu le clou du spectacle pour la collection printemps.
Il y a également dans cette collection printemps et le même soir, et vous allez me reprendre sur la prononciation, LVN Josh Hyde.
Je suis pas sûr que je suis meilleur que toi sur la prononciation.
Un duo électro.
Electro dub, ouais, dans l'esprit, ouais.
Qui nous vient d'où ?
De Londres. Du coup, c'est des copains à Standaï. L'idée, c'était de créer. De compléter ce plateau dub qui est Standaï avec autre chose qui mélange le dub à l'électro et qui emmène vers aussi le reste, c'est-à-dire Son of Kick qui est en fin de soirée. Donc on rentre dans la phase un peu plus électro de la soirée. Quoi, voilà.
Standaï Patrol, Standaï comme vous les appelez. Acteur incontournable de la scène dub européenne.
Ouais,
dub et basse musique.
Ils disent même la nouvelle étoile du dub français, voilà. Bah, moi, ça me fait penser au phénomène iTunes il y a maintenant 10 ans. C'est un peu la même ce qui se passe pour eux avec une nouvelle génération qui les suit, quoi. Ils font pas beaucoup de bruit, mais finalement, ils remplissent quand même des salles de 1000-1500 un peu partout en France sans que trop que ça se sache, quoi. Donc voilà, moi, j'aime bien musicalement, ça m'a fait beaucoup rire. J'aime bien le phrasé de Pupa Jim. Voilà, j'aime bien musicalement, ça m'a plu, quoi. Donc j'ai foncé.
Et puis on termine pour ce samedi avec Son of Kick. Musique musclée, hein.
Bah, tu vois, de 2h à 3h, faut
quand même les tenir en éveil.
Ça envoie, hein, ouais. Voilà, donc on est toujours dans une idée de monter en puissance, donc ça, voilà, c'est le clou.
C'est le clou du samedi.
On enfonce le clou et voilà, on finit par du dubstep un peu dans l'esprit.
Et le lendemain, on reprend dimanche au Barouf,
ouais,
à Cholet,
ouais.
Avec Bagarre, un groupe hybride.
Une envie meurtre, me sort du rêve, un mauvais sort.
C'est classable, ça, Bagarre ? Vous le classez où ?
Ah, j'ai bien aimé le terme hybride, parce que forcément, ça fait partie des groupes qu'on a beaucoup de mal à définir. Moi, j'ai vu ça au bar en Trans, donc en décembre dernier, dans un petit bar de 100 places, quoi. Et du coup, au fur et à mesure du concert, le public s'est énervé, agité et a apprécié le concert. Et c'est ce qui m'a séduit le plus. C'est-à-dire qu'on a fini avec des gens torse à poil qui ont adoré le moment, quoi. Et c'est rare maintenant de voir des groupes qui provoquent ça, qui provoquent cette émotion chez le public. Et en plus, comme on programme ça dans un café-concert, ça, voilà, c'était évident. Voilà.
Et puis, Eagle's Gift. Groupe angevin psyché, qui était donc programmé à la collection.
C'est ça qu'on a reporté sur le printemps.
Que vous avez reporté, ouais. C'est un coup de cœur. Si vous insistez là avec Eagle's Gift, c'est que...
Après, On a envie de défendre aussi les artistes régionaux, surtout quand ils sont de valeur. Là, pour moi, c'est un groupe de valeur qu'il faut montrer au public, qu'il faut qu'il évolue. Alors, c'est pas facile pour le rock psyché en France, je pense. Donc, autant qu'on leur laisse un petit peu de place et qu'on leur permette de se faire découvrir au public.
Le rock psyché qui est quand même plutôt à la mode en ce moment, non ?
Ouais, enfin, après, sorti de festivals comme Lévitation, des choses comme ça, je pense qu'il n'y a pas tant que ça d'opportunités de jouer pour eux, quoi. En France, en tout cas. Hein. Je pense que c'est un groupe qui marchera très, très bien à l'export, mais qui, en France, aura toujours du mal à trouver beaucoup de dates, quoi.
Vous êtes là pour parler évidemment de cette collection. On n'oublie jamais de dire que les éclectiques, c'est aussi de l'action culturelle à côté. C'est des fanzines qui sont menées, c'est des ateliers radio qui sont menés. Ça, c'est encore important de le garder cette part-là dans les éclectiques.
Ouais, c'est la partie humaine, puis c'est la partie qui fait qu'il y a un maillage sur le territoire, qui fait qu'il y a des lycéens qui s'intéressent au projet, qui découvrent le milieu journalistique par le biais d'un festival, qui rentrent finalement peut-être dans le conseil d'administration par certains ensuite. C'est une autre manière, un autre biais, en tout cas pour rentrer dans l'association. C'est ce qu'on s'est rendu compte aussi, et c'est assez intéressant. Ça nous a permis de presque trouver la troisième génération d'administrateurs de l'association, donc ça a du sens, quoi, vraiment. Quoi.
Ça crée des vocations,
réellement.
Thierry Bidet, on vous invite souvent pour parler des éclectiques, mais on parle rarement de votre parcours à vous et de comment vous en êtes venu à l'événementiel. Alors, vous êtes une figure à Cholet via le Barouf, on va le rappeler aux gens.
J'étais, parce que je m'occupe plus du Barouf.
Vous êtes encore connu pour le Barouf, malgré tout. Comment vous êtes venu à ce parcours, quoi, événementiel, musique, prog, ouais. Voilà, multicasquette.
Moi, je dis toujours que c'est le hasard qui m'a emmené là. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Moi, j'étais dans des études d'expertise comptable. Je m'ennuyais, je n'avais pas envie de devenir expert comptable. Je suis parti à l'armée. Un copain m'a ensuite invité à participer à l'association ZICMAC quand je suis revenu de l'armée. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis devenu trésorier, forcément, vu que j'avais fait de l'expertise comptable. On s'est lancé dans un plein air en 98 qui s'appelait Les Éclectiques. Et puis après, j'ai jamais lâché le morceau. Et puis il y a eu l'opportunité de monter un café-concert à Cholet. Et puis j'ai aussi monté un festival qui s'appelait La Septième Vague à l'époque, aussi à Bretignolles-sur-Mer pendant 10 ans. Bon voilà, tout ça, ça s'est fait naturellement, sans réellement d'ambition, ni d'objectif, ni de... J'ai eu de la chance, on va dire, je sais pas. Je qualifie pas, j'ai jamais calculé les choses, quoi.
Vous êtes un bouffeur de disques ?
Moins que ça fait, parce que on peut plus suivre le rythme, en fait. C'est un peu comme tout, j'ai envie de dire, tout va trop vite aujourd'hui, et vraiment là on est submergé d'envois de... Il y a de plus en plus de gens qui nous envoient du son, et c'est plus possible de tout écouter. Sinon, même la journée me suffirait pas à tout écouter, je pense, clairement. Et il faut aussi avancer, évoluer dans ses projets, réfléchir à autre chose que d'écouter de la musique. Il y a des moments où on a besoin de calme. Donc non, j'arrive plus. J'ai fait jusqu'à il y a très longtemps, encore il y a 3-4 ans, j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'ai vraiment calmé le jeu parce que je trouvais que je me noyais. Je ne me rappelais même plus finalement à la fin de la journée de ce que j'avais écouté. Donc je suis beaucoup plus sélectif dans mon écoute.
Et là, votre dernier coup de cœur musical ? Ou vos derniers coups de cœur ?
Je vais dire bagarre, vraiment. Oui. Hein. Après, moi, mes coups de cœur musicaux sont beaucoup plus souvent en live, d'ailleurs, qu'en disque, clairement. Parce que c'est le live où l'artiste se révèle ou se révèle pas, finalement. On peut très bien aimer un artiste sur disque, puis finalement se rendre compte après sur scène que ça fonctionne pas du tout avec le public, il n'y a pas d'émotion. Et puis, voilà, ce qui est intéressant dans un festival, c'est que le public, la mayonnaise prenne, comme je dis, quoi, et que le public, il réceptionne la chose et qu'il redonne à l'artiste, quoi. C'est là où il se passe quelque chose et où il y a de la magie, quoi.
Vous avez lancé un sondage pour mieux connaître peut-être les envies, les goûts des spectateurs, du public pour la saison prochaine. Comment ça vous est venu, cette idée-là ?
Bon, c'est d'être un petit peu plus participatif. Moi, je vais dire une bêtise, mais je vieillis. Donc, des fois, peut-être aussi, il faut se remettre au goût du jour, voir un peu les tendances. Et puis surtout, après, c'était de voir un peu l'écho qu'avaient les trois collections dans l'année, savoir si les gens connaissaient les trois collections ou pas. On se rend compte qu'il y a d'accord. 30% du public qui ne connaît pas les trois collections. On se rend compte que 70% des gens réclament un camping sur l'automne, ce qui nous surprend, mais on en a discuté avec les Ules, on va voir si on peut organiser quelque chose. Après, il y a différents sondages aussi sur les projets futurs, donc on parle de parcours secret, on parle d'un projet de proc secrète également. Là, je suis assez étonné aussi, parce que finalement, il y a pas mal de gens qui seraient prêts à se prêter au jeu, à un tarif plutôt plus important, en tout cas, que je pensais. Ça donne des pistes, en tout cas, parce qu'on a besoin d'avoir des réponses par rapport à des choses qui sont difficiles à calculer, parce que se lancer dans une proc secrète pendant 3 jours, avec 30 groupes, sur un site inconnu... Oui, pourquoi pas, on a envie, c'est un super projet, mais est-ce que ça peut être crédible aux yeux des gens ? C'était un peu le besoin que j'avais sur ce premier sondage. Il y en aura d'autres, je pense, clairement, pour creuser les choses et essayer de faire qu'on arrive à ce dernier projet qu'on veut faire naître, quoi.
Ça veut dire que la nouveauté pour les éclectiques, ce renouvellement, ces nouveaux projets, ça peut être dès l'année prochaine ?
J'espère, ouais, j'espère. J'espère. Après, ça dépend pas que de nous, forcément. Il y a des enjeux financiers qui se concrétisent. Et si tout se concrétise, oui, ça peut être dès l'année prochaine. Ouais.
Bon, en tout cas, là, en avril, les 3, 4 et 5 avril, c'est la collection Printemps des Éclectiques. Et figurez-vous que les Éclectiques vous font gagner des places sur Radio Campus Angers. En répondant à cette question, en quelle année sont nés les Éclectiques? C'est facile, on vient d'en parler. La réponse et vos coordonnées, c'est à communication@radiocampusangers.com. Merci beaucoup Thierry Bidet d'avoir été avec nous. Oui.
J'ai une petite info. Pour ce qui est des navettes de bus, malheureusement, les 3 navettes de la gare routière sont complètes et on n'arrive pas à en débloquer une dernière. Et la navette de Belbeil, il doit rester une quinzaine de places, donc dépêchez-vous, parce que clairement, demain ou après-demain, c'est terminé, il n'y aura plus de place à vendre, en tout cas via les navettes. Quoi. Il y aura des places pour le festival, mais pas via les navettes. Et pour ce qui est de Nantes, La Rochelle-Cholet est complet, et Nantes est quasi complet également. Quoi,
donc, c'est plutôt bon signe pour vous, ça.
On est victime de notre succès sur les navettes, il va falloir qu'on arrive encore à développer le système, mais là, on arrive aussi à la limite du bénévolat. Il va falloir aussi qu'on réfléchisse à comment on arrive à développer tout ça. Quoi, voilà.
Bon, bah on vous réinvitera pour en parler alors.
Exactement.
Merci beaucoup et d'ici là, on écoute Fakir justement avec Damas.
Thank you.
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, ça se passe à 20h30 à l'espace culturel de l'Université d'Angers. La pièce Molière au carré par les trois coups, la troupe de théâtre de Luco, qui tient d'ailleurs son festival jusqu'au 4 avril. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Hier soir, Sine qua non a visité le grenier de Tim Burton.
Ce soir, révélation exclusive sur Interstellar de Christopher Nolan. Attendez, je pense à un truc là. Dans l'agence Sine qua non, on est bien quatre.
Ouais.
Il y a moi, il y a Ryan San, il y a Mork, il y a Tintin.
Ouais.
Mais si on est tous les quatre dans la partie passager de l'avion, qui pilote ? Les gars, ça va ?
Où est-ce qu'on est ?
Si je me fie à ma boussole supersonique, nous venons d'atterrir dans le grenier de Tim Burton.
Mais oui, regardez !
Là-bas, il y a des monstres marrants. Ils dansent en buvant du sang dans des crânes qui sourient.
Là-bas, il y a des sourires roses bonbons qui tondent leur pelouse.
Je me fais littéralement chier.
Oui, pardon Tintin, vous avez raison. Revenons aux news. On n'a plus le temps pour les news.
Vous pouvez réécouter la totalité de Sine qua non sur le www.radiocampusangers.com et dans 5 minutes sur le 103FM, c'est les geeks de Pas de Panique qui prennent les micros. Salut Profi.
Salut Tiffen.
De quoi est-ce que vous allez nous parler, vous, bande de geeks ?
On fait la révolution, on s'attarde sur les téléphones portables.
C'est révolutionnaire ça, les téléphones portables ?
This is a revolution. C'est Steve Jobs qui l'a dit, c'est pas nous.
D'accord. T'es donc dans 5 minutes, pas de panique. Merci à Quentin, merci à Thomas, merci à Maëlle pour la réalisation. Nous on se retrouve demain à 19h, on se penchera sur le concept dit réputation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.